7h, puisque je répète, hein, il est 7h, c'est le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La France et son budget pour la fin du quinquennat, c'est l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les oppositions mettent à nouveau en doute la sincérité des prévisions du gouvernement.
La stratégie militaire d'Israël à Rafah est critiquée jusque chez les plus hauts gradés du pays, nous dira Thibault Lefèvre.
Et puis les violences éducatives ordinaires, comme les claques ou les fessées, se transmettent d'autant plus facilement qu'on en a été victime. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Après ce journal, quelle question du jour, Marguerite Caton?
Pourquoi reconnaître le génocide assyro-chaldéen?
Réponse à 7h15. Des notes stables, mais il ne faut pas relâcher l'effort. En fin de semaine dernière, les premières agences de notation ont décidé de ne pas revoir, c'est-à-dire de ne pas dégrader, la note de la dette française qui s'est pourtant largement creusée dernièrement. Une nouvelle plutôt rassurante pour le gouvernement qui reste pourtant sous pression, particulièrement aujourd'hui. D'une part parce que l'INSEE va dévoiler une première estimation de croissance pour le premier trimestre, ce qui permettra de voir si le gouvernement a été plus ou moins optimiste que l'Institut national des statistiques. D'autre part, parce qu'un débat sans vote a lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale autour des nouvelles prévisions budgétaires pour le reste du quinquennat. Bonjour Nicolas Ballu.
Bonjour.
Un débat organisé sous la pression des oppositions qui souhaitent faire de cet argument budgétaire un cheval de bataille politique.
Oui, bien qu'il soit qualifié de couteau sans lame par Éric Coquerel, le président LFI de la Commission des Finances, justement parce qu'il n'y a pas de vote et qu'il n'y en aura pas sur les 10 premiers milliards d'euros d'économies détaillés par décret et non pas via un collectif budgétaire qui passerait donc par l'Assemblée. Mais les oppositions ne vont pas manquer de mettre le gouvernement et la majorité devant ses responsabilités et pointer du doigt en pleine campagne européenne l'un des fondamentaux affichés par la Macronie, le soi-disant sérieux budgétaire, la gestion économique incarnée par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Déficit à 5,5% du PIB en 2023, moins 5,1% attendu en 2024. Le gouvernement promet dans son programme de stabilité dévoilé à la mi-avril de garder l'objectif du redressement du déficit à 3% en 2027. Les agences de notation Fitch et Moody's ont indiqué vendredi qu'elles n'y croyaient pas plus que le Haut Conseil des Finances Publiques. D'ailleurs, le gouvernement doit trouver 10 milliards d'économies supplémentaires. En termes politiques, cela donne la dénonciation à gauche d'une nouvelle cure d'austérité qui attend les Français, la baisse des dépenses publiques sans toucher aux revenus du capital, s'insurge la France insoumise, la dénonciation à droite d'un plan caché d'augmentation des impôts au lendemain des européennes, selon l'expression du patron des Républicains, Éric Ciotti. Avec à la clé l'éventuel dépôt d'une motion de censure, une fois de plus, c'est l'attitude du parti Les Républicains qui sera scrutée. Les députés sont divisés sur le sujet, le Rassemblement national se dit prêt à en déposer une, façon de mettre aussi la pression sur les députés LR.
Nicolas Ballu, merci. L'autre opposition aux économies à venir vient d'ONG, notamment environnementales. Le collectif Notre Affaire à Tous, association qui cherche à porter sur le terrain juridique les atteintes environnementales, s'inquiète en particulier des coupes qui vont affecter la protection de l'environnement. Elle représente 2 des 10 milliards d'euros d'économies déjà actées par décret, mais l'association conteste surtout la légalité de ce décret et s'associe à l'Université de Lyon 3 pour faire appel au Conseil d'État. Son délégué général, Jérémy Suissa, en explique la raison.
On ne peut pas faire n'importe quoi en procédure budgétaire en France. D'abord, le budget, normalement, ça se vote au Parlement. Ça se fait pas dans un bureau ni à Matignon ni à l'Élysée. Et donc, il y a des règles à respecter, notamment ce qu'on appelle la loi organique sur les lois de finances qui prévoit que le gouvernement peut certes moduler certains crédits qui ont été votés, mais dans la limite d'un certain plafond. Bien sûr qu'il y a des débats sur les modalités de calcul, mais nous, on estime que aujourd'hui, ce montant, qui est un montant record d'annulation de crédit, il va au-delà du plafond de ce que la loi permet au gouvernement de faire en solo sans le Parlement. Et puis, il y a un autre critère, c'est qu'il faut que le gouvernement atteste qu'il y a eu des changements imprévisibles dans la conjoncture qui justifient ces modifications du budget voté. Or, ce qui est très clair pour nous, c'est que 2 mois après le vote du budget, au moment où le décret est pris, il n'y a absolument pas de revirement de la conjoncture. Les projections économiques étaient parfaitement connues. Et donc, les 2 conditions, à savoir un montant raisonnable et une imprévisibilité, ne sont pas remplies. Donc, on considère que là, le gouvernement s'est accaparé un pouvoir budgétaire qui appartient aux parlementaires. Donc on considère que, bien évidemment, c'était irrégulier.
Et des propos recueillis par Marie Viennot. Et puis il s'agit toujours d'argent de l'État. Viendra-t-il au secours d'Atos ? Le groupe informatique est dans la tourmente, mais ses activités sont stratégiques et Bercy souhaite éviter qu'elles ne tombent dans les mains d'investisseurs étrangers. Atos, on le rappelle, possède des supercalculateurs capables de gérer des montants énormes de données. Il sécurise par exemple toute l'informatique des JO. Bruno Le Maire a donc envoyé ce week-end une lettre d'intention au groupe, se disant intéressé pour aider à reprendre plusieurs activités stratégiques. Sciences Po Paris, évacué puis occupé à nouveau la semaine dernière par des étudiants pro-palestiniens à la suite de manifestations similaires dans les universités américaines. Le conflit à Gaza diffuse donc dans le monde étudiant et cela depuis le massacre du 7 octobre perpétré en Israël par le Hamas. Et les conséquences de ce conflit ont également provoqué une montée du nombre d'actes et de propos antisémites dans les universités françaises au point que leurs dirigeants s'en sont émus. Au-delà des chiffres, ces actes ont des conséquences directes et concrètes pour ceux qui en sont victimes. Écoutez par exemple ce témoignage de Rachel, un prénom modifié, étudiante en lettres de confession juive. Elle a été victime d'antisémitisme au sein de sa licence sur un campus parisien.
J'étais absente pendant de nombreuses semaines de la fac parce que c'était assez dur en fait. C'était trop dur à vivre, l'ambiance était trop dure à vivre. C'est hyper triste en vrai, mais tous les étudiants juifs ont un peu ce sentiment de solitude et d'abandon, que ce soit des groupes militants, que ce soit des étudiants, que ce soit du corps enseignant, de la fac, etc. On est un peu bon. J'aimerais bien que tous ceux qui sont silencieux, indifférents, un peu lâches et qui pensent, quand ils entendent des remarques antisémites ou quand ils voient des gens être haineux ou quand ils voient des juifs être humiliés parce qu'ils sont juifs, bah juste qu'ils arrêtent de se taire et d'accepter ça et de faire comme si de rien n'était et qu'au bout d'un moment, qu'on n'a pas le droit d'être indifférent et lâche face à la haine, quoi. Donc bon, ça serait bien de se réveiller un peu.
Des propos recueillis par Wafia Kenich qui signe sur ce sujet le reportage de la rédaction tout à l'heure à 7h25. Au Proche-Orient, le conflit donc en est à son 7e mois et on parle à nouveau d'une trêve probable alors que des frappes israéliennes ont fait cette nuit 13 morts et plusieurs blessés à Rafah, selon des médecins sur place. Les médias du Hamas font, eux, état d'un bilan de 15 morts. Ces frappes interviennent juste avant que ce matin, une délégation du Hamas ne se rende au Caire pour des discussions sur un cessez-le-feu. L'organisation islamiste palestinienne estime d'ailleurs n'avoir relevé, je cite, aucun problème majeur quant à la dernière proposition de trêve associée à la libération des otages. La stratégie israélienne de lancer tout de même dans ce contexte une offensive sur Rafah interroge d'autant plus, elle choque à la fois la communauté internationale mais aussi ses plus hauts gradés en Israël. C'est ce que nous raconte notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre.
Le général à la retraite, Yair Golan, est un héros en Israël. Le 7 octobre, l'ancien numéro 2 de l'armée est parti, arme à la main, sauver des participants du festival Nova. Depuis, cet homme de gauche a lancé son parti politique avec un objectif majeur.
Benjamin Netanyahou doit rentrer immédiatement à la maison.
Mettre fin au règne du Premier ministre, incapable selon lui de mener une guerre dont il est en partie responsable.
Il n'y a pas d'échec militaire sans échec politique. Au lieu de renforcer l'autorité palestinienne et d'affaiblir le Hamas, il a fait l'inverse. C'est une honte, il a échoué. Sa stratégie a été désastreuse.
Irad Yuval n'en pense pas moins.
Le changement, ce n'est pas quelque chose dont tu parles, c'est quelque chose que tu fais.
Mais pour cet ancien lieutenant-colonel des forces spéciales, le temps n'est pas à la polémique.
Il faut s'assurer que l'on soit derrière nos soldats. À la fin, il faudra certainement qu'on organise de nouvelles élections, mais pour le moment, être uni, c'est le plus important.
Et Irad Yuval rappelle que les Juifs n'ont qu'un seul État.
The Jews have only one state. You need to make sure that it's safe to live.
Et qu'il faut avant toute chose assurer sa sécurité.
Thibault Lefebvre.
7h09 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Partons en Allemagne à présent pour le début d'un procès.
La justice doit se prononcer sur le sort d'un groupuscule armé, complotiste et d'extrême droite, accusé en outre d'avoir préparé un coup d'État. Au total, 9 personnes se réclamant des citoyens du Reich. C'est le nom de ce groupe qui en donne aussi la couleur. Démantelé en 2022, la révélation condamnation de ses actions avait choqué le pays. D'autres membres des citoyens du Reich comparaîtront dans quelques semaines. À Berlin, Sébastien Baer.
Pour préparer le coup d'État, le groupuscule avait fait l'acquisition de gilets pare-balles, de casques, de menottes et d'appareils de vision nocturne. Lors des perquisitions, la police a aussi saisi plus de 700 pistolets, fusils, arbalètes, couteaux et machettes. Le plan des citoyens du Reich était conçu en deux temps. Les militants devaient envahir le Bundestag pour neutraliser les députés et renverser le gouvernement. Pour rendre crédible ce scénario, la cellule avait prévu de recruter un sosie du chancelier Olaf Scholz, chargé d'annoncer le changement de pouvoir. Le groupuscule des citoyens du Reich forme un attelage assez hétéroclite. Parmi ses membres, on recense d'anciens officiers de l'armée, un chef cuisinier réputé, une astrologue, une juge et un aristocrate de 73 ans. Cet homme, qui se fait appeler Henri XIII, prince Royce, devait prendre la tête du pays après le putsch. Le groupuscule était très structuré, ses membres s'étaient répartis différentes attributions, intérieur, santé, internationale, justice et affaires militaires. Les militants, dont le nombre est estimé à un peu plus de 20 000 en Allemagne, devaient signer un pacte de confidentialité au moment de rejoindre la mouvance. Le texte précisait que toute trahison était passible de la peine de mort.
Vous pourrez le voir sur les grandes chaînes de télévision françaises à partir d'aujourd'hui, un spot réalisé par l'association Stop aux violences éducatives ordinaires, diffusé à l'occasion de la Journée internationale de la non-violence éducative demain mardi. Une version longue existe déjà sur les réseaux sociaux qui ouvre une nouvelle campagne de sensibilisation 5 ans après la loi relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires, surnommée la loi anti-fessée, adoptée donc le 10 juillet 2019. D'après la dernière étude sur le sujet, qui remonte à 2022, 79% des parents admettent encore utiliser des violences éducatives et 80% des Français disent avoir subi ces mêmes violences. Le spot réalisé a donc pour ambition de briser ce cercle de la transmission des violences de génération en génération. Mathieu Laurent.
Une main, voilà mon héritage.
La main est le fil d'Ariane de ce film. Cette fois pour le pire, violence éducative ordinaire, pratique coercitive et punitive, claque, fessée, mots blessants, humiliants, tirage d'oreilles, mise au coin pour faire obéir un enfant.
Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi?
Céline Kennel, fondatrice de l'association Stop VO.
Pourquoi il a ce comportement déroutant? C'est jamais parce que l'enfant a envie d'embêter le parent ou a envie de nuire, mais c'est bien parce que son développement en fait fait en sorte qu'il n'est pas capable de contrôler ses émotions.
Et dont j'ai peur.
Et puis ce sont enfin des peurs de se dire, eh ben si je suis pas violent, effectivement je perds mon autorité, je n'élèverai pas bien mon enfant, il sera sans limite, sans contour. C'est là où il faut reposer les choses et puis bien définir ce qu'est une éducation sans violence, qui n'est pas une éducation sans cadre et sans limite.
Le film est ainsi construit qu'il questionne les héritages émotionnels, corporels des parents. On est parent avec l'enfant que l'on a été.
Ce sont des parents, en fait, des adultes qui ont eux-mêmes été éduqués avec de la violence. Il faut savoir que la violence, c'est un schéma qui s'inscrit dans le cerveau comme un apprentissage, comme on apprendrait une langue étrangère, etc. Avec l'idée du fameux « c'est pour ton bien, moi des fessées j'en ai reçu, j'en suis pas mort », etc. On intègre ça comme une logique et tout naturellement, on la reproduit après sur ses propres enfants.
Les mentalités changent, lentement.
Mais on peut toujours tourner le dos à un héritage.
Mathieu Laurent, enfin on connaît la liste du jury qui officiera à Cannes du 14 au 25 mai prochain. Sous la présidence donc de la réalisatrice américaine Greta Gerwig, 4 hommes et 4 femmes, dont les acteurs français Omar Sy et Eva Green, l'actrice américaine issue du peuple amérindien Lily Gladstone, l'acteur italien Pier Francesco Favino, le réalisateur japonais Kore-eda, Palme d'Or en 2018, ou encore la scénariste et photographe turque Ebru Ceylan. Un mot de la météo de ce lundi, pluie de l'Occitanie à la Bourgogne, temps sec en PACA, variable ailleurs, les températures de à 10 degrés ce matin, 15 à 20 degrés en général cet après-midi, 21 à 24 sur la Côte d'Azur. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous Guillaume Erner.
Merci Anne-Laure Chouin. Dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. Pourquoi reconnaître le génocide assyro-chaldéen? On va tout vous expliquer.